Avec un message que le Seigneur a déposé sur mon cœur il y a quand même quelques temps, en pensant à ces moments un peu... Alors, ce n'est pas la reprise, mais je me disais, mais dans cette question, mais qui est Dieu ? Dans le psaume 18, à un moment donné, le psalmiste s'est posé la question, hein, qui est Dieu ? Et il répond assez rapidement, il dit, qui est Dieu si ce n'est l'Éternel ? Qui est ton rocher si ce n'est notre Dieu ? À cette question, qui est Dieu ? La Bible répond, Dieu se révèle dans la mesure que de chacun d'entre nous, nous puissions faire cette démarche et dire, Seigneur, je veux te connaître davantage. Seigneur, je veux aller plus loin avec toi. Et ce qu'il nous faut savoir dans cette question, hein, donc, qui est Dieu ? Alors évidemment que Dieu est amour. Évidemment que Dieu est bonté, que Dieu est paix. Mais également, Dieu a des exigences envers chacun et chacune d'entre nous. Peut-être que c'est un mot qu'on n'aime pas trop. On dit de quelqu'un, quand il est exigeant, ça a toujours une connotation péjorative. Mais on voit que Dieu est exigeant avec l'être humain, et en particulier avec chacun d'entre nous. Donc, dans les exigences de Dieu, il y a un verset d'introduction fondamental pour chacun d'entre nous. Et là, on va découvrir le secret, une clé qui ouvre la voie du bonheur avec le Seigneur. Est-ce que vous voulez connaître les secrets ? Alors, souvent, j'ai un petit-fils qui est curieux. Et à chaque fois, je dis à sa sœur, je dis, tu veux que je te dise un secret ? Alors, lui, de suite, il vient se coller à mon oreille pour écouter le secret. Et je crois que le Seigneur, il veut également que nous-mêmes, nous soyons donc alertes, réveillés et comprendre ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. En fait, ça se rapporte à la volonté de Dieu, ce que Dieu veut pour nous tous. Et là, au travers de ce verset, vous allez voir, c'est du concret. Michée, chapitre 6, le verset 8. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, exige de toi, c'est que tu pratiques, et là on voit le secret, la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Alléluia, amen. » Et ici on a finalement la feuille de route, comment être agréable à Dieu, parce que j'espère que dans votre vie, c'est le but que vous poursuivez, hein. C'est d'être agréable à Dieu, que nos vies soient agréables à notre Seigneur. Alléluia, que Dieu soit béni. Ce passage, il commence avec ces mots, on t'a fait connaître. Et le mot connaître, quand on va dans le sens initial, on s'aperçoit que ce mot veut dire, on t'a révélé. Tout est une question de révélation. Si le Seigneur ne se révèle pas à chacun d'entre nous, nous serions encore dans l'ignorance. Et nous serions comme les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, nous serions insensés. Vous savez qu'insensé, ça se rapproche de la folie. Insensé, c'est-à-dire que je ne vais pas dans le bon sens. Insensé, et c'est là ce qui se passe à la conversion, le Seigneur me ramène dans la bonne direction et je marche auprès de lui. Alléluia. On t'a fait connaître, on t'a révélé, mettre en évidence, on a mis en évidence certaines choses. Également, le mot veut dire on t'a annoncé, on t'a rapporté, et de la part de notre Seigneur. Mais je remarque également que le verbe est au passé, on t'a fait connaître à un moment donné. Ce qui sous-entend qu'on doit se rappeler. Ici, le Seigneur, ce qu'il fait par rapport à son peuple, et on va voir dans quelles circonstances ce verset est là dans la parole. Il y a un contexte à tout cela, et le contexte, il est dramatique. Le verbe est au passé pour qu'on puisse se rappeler qui est Dieu. Et Dieu est en train de les ramener toujours à un souvenir de ce que le Seigneur a fait dans le désert, déjà comme il les a délivrés. Avec de façon extraordinaire, hein, on le dit, on le répète, on le lit, et que le Seigneur, donc, il les a libérés de plus de 400 ans d'esclavage, et ensuite, le Seigneur les a amenés plus loin avec des péripéties, des épisodes, des fois qui étaient peu glorieux, d'autres un peu plus glorieux, mais en tout cas, le Seigneur ici les ramène, ici, donc, en leur disant, mais réfléchissez au passé, souvenez-vous ce que le Seigneur a accompli. Et pour nos vies, des fois, on peut tomber dans le découragement. Hein, ça peut nous arriver. Il y a un homme de Dieu, hein, il y a plusieurs hommes de Dieu, mais un en particulier qui, à un moment donné, tellement découragé qu'il va demander la mort à Dieu. C'est terrible. Un homme de Dieu. Le secret, c'est de se souvenir, de se rappeler. Donc, on t'a fait connaître, t'a révélé. Ô homme, ce message, il s'adresse donc à l'être humain, à son genre et à l'humanité tout entière. Ici, évidemment, le contexte, ça se rapporte au peuple de Dieu, mais comme c'est dans la Bible, dans la parole, on peut s'approprier toutes les paroles qui sont dans ce livre. Amen. Alors, on t'a fait connaître quoi ? Ce qui est bien, ce qui est agréable à Dieu, ce qui est plaisant, ce qui est bon, ce qui est même excellent. J'espère que dans votre vie chrétienne et dans votre marche, vous poursuivez l'excellence. Parce que c'est ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Hein. L'excellence, donc encore une fois, il y a une exigence de la part de Dieu. L'exigence de Dieu qui va commencer ici et dire « Et ce que l'Éternel demande de toi ?» On voit ici que c'est un peu plus personnel. Il demande quelque chose à chacun d'entre nous. Et en fait, ici, quand le Seigneur il dit « Ce que l'Éternel demande de toi », c'est-à-dire, c'est une action continue. Ce qu'il a commencé à faire, ce qu'il s'attend à un résultat. C'est ça, ici, le mot. Alors, les exigences de Dieu, on va les voir en détail, hein, il y en a trois. Mais il y a un contexte, je vous l'ai dit. Et ce contexte, il est dramatique. Verset 3, Michée, chapitre 6, verset 3. Regardez quelques versets auparavant. « Mon peuple, et ça c'est Dieu qui parle. Que t'ai-je fait ?» Question. Mais qu'est-ce que je t'ai fait en fait? Pourquoi tu t'éloignes de moi? Combien de fois j'ai voulu me rapprocher de toi? Combien de fois j'ai été proche de toi? Combien de fois je suis venu à tous tes besoins? Et là ici la question est là. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je chargé? Et le Seigneur exige une réponse. Alors, je le disais tout à l'heure, hein, Dieu est amour, Dieu est bonté, Dieu est grâce. Et des fois, on oublie qu'à ce moment-là, et c'est le contexte, si vous lisez tout le chapitre 6 de Michée, moi je l'ai en titre, le procès de l'Éternel contre Israël, Dieu était en procès contre son peuple. Procès, on sait ce que ça veut dire, hein. Pas besoin de définition spéciale. Ça veut dire que le Seigneur s'est opposé, c'est lui-même qui s'est levé. Et donc, c'est, quand il y a procès, c'est deux parties adverses et opposées. Dieu est en procès ici contre son peuple et Dieu les rappelle ce qu'il a fait et comment il les a rachetés de l'esclavage. Si vous lisez la suite, le Seigneur dit mais en fait, je t'ai sorti de l'esclavage et il le rappelle cela. Et pour nous, il y a ce matin ce rappel. Justement, de nous dire, mais oui, le Seigneur a été bon. La nature humaine, on a tendance à oublier combien le Seigneur est bon, combien il nous protège. Des fois, même à nos dépens, sans qu'on s'en aperçoive, le Seigneur nous protège. Le Seigneur est là. Voilà, il y a des circonstances où, voilà, à un moment donné, le Seigneur, il exauce les prières. Pendant qu'on était en vacances avec Henriette, à un moment donné, on est dans un endroit, et ça a rappelé. Donc, un épisode à Henriette, et moi je ne m'en souvenais plus, hein, j'avais complètement zappé ça. J'ai dit, mais quand même, c'était extraordinaire, hein, considérant que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Donc, on devait aller se rendre quelque part, et puis, donc moi j'étais dans le véhicule, j'attendais parce que j'étais pas bien garé. Et Henriette, donc, elle est partie avec un de nos enfants, l'aîné, mon fils, et, donc faire ses courses. Et quand ils sont revenus, une voiture est arrivée à percuter mon fils. Terrible. Oh, je l'avais zappé. Et Henriette me disait, tu te souviens, Alex? Je t'avais dit, quelques minutes auparavant, je sens qu'il va arriver quelque chose. Je ne sais pas quoi. Mais je sens qu'il va arriver, alors c'est la précision, hein, je sens qu'il va arriver quelque chose avec un de nos enfants. Et là, elle a prié dans son cœur. Et le Seigneur a gardé, il a protégé, le petit s'est levé. Alors je ne vous dis pas la panique, hein, couru, on s'est précipité. Je vous promets, hein, après les images me sont revenues, et c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Il a levé la poussière, il s'est levé. Alors nous, on était là, on regardait, on l'a scruté de la tête aux pieds. Puis, il n'avait rien du tout. Si ça, ce n'est pas un miracle, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Et le Seigneur, il nous protège. Et regardez, et quand Henriette m'a dit ça, j'ai dit, oh, Et Seigneur, j'avais oublié cet épisode. J'avais oublié de te remercier. Alors, je l'avais fait en temps et en heure, mais je l'avais zappé. Et il ne faut pas oublier. Au contraire, il faut repasser jour après jour les bontés de l'Éternel, combien il nous protège, combien il nous garde de tout mal et de tout danger. À lui seul soit toute la gloire. Amen. Et c'est ce que fait le Seigneur ici dans ce contexte. En réponse, comme il est en procès, il est en train de leur dire « Rappelez-vous du passé ». Et pour nous tous, nous devons nous rappeler que Dieu est avec nous. Jésus va le dire, je suis avec vous, quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du monde. Alléluia! Alors le Seigneur est avec nous. Amen. On va maintenant développer ici les secrets pour nos vies. Et dans ces secrets, le premier, voilà, on a vu les trois, ce qu'on va voir, pratiquer la justice. Pratiquer, c'est expérimenter, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est pratiquer. C'est, par exemple, je ne sais pas, si aujourd'hui, quoique aujourd'hui, on peut pratiquer du sport virtuellement, mais voilà, si on veut être efficace, il faut pratiquer, il faut de l'exercice, il faut expérimenter. Et également, pratiquer veut dire observer, réaliser certaines choses. Agir avec justice signifie faire ce qui est moralement juste et équitable. Et là, ça vient nous chercher. Parce que la Bible, dans certaines religions, dans la plupart des religions, on va vous dire, essayez de trouver le meilleur de vous, développez-le, et vous allez voir que vous allez être épanoui. Ah, la Bible, elle est claire par rapport à ça. La Bible dit que à chacun d'entre nous, il n'y a rien de bon. Tous des pécheurs. Et par conséquent, on mérite tous une sentence. Et la sentence, elle est extrême. Et ça, nous ne devons jamais l'oublier. Donc, agir pour ce qui est moralement juste, pratiquer la justice, en fait, ici, il s'engage, c'est le Seigneur lui-même qui s'engage en nous accordant sa propre justice. Ce matin, j'étais émerveillé alors que j'étais là en train de louer le Seigneur, de me dire « Seigneur !» Alors que l'on se connaît, hein, chacun d'entre nous, j'espère. Tu me vois pur ce matin. Seigneur, tu me vois sans péché, pas par nos mérites. C'est parce que Jésus, à la croix du calvaire, a pris sur lui notre condamnation, nos péchés. Et donc, par conséquence, donc, nous appartenons au Seigneur. Et quand Dieu nous regarde, il nous voit juste et sans péché. Ça, c'est un miracle. C'est extraordinaire. Et ça, il faut le vivre. C'est ça la victoire, en fait. Et il faut le vivre jour après jour. De dire, Seigneur, je suis victorieux. Pas simplement parce qu'on a chanté tout à l'heure des paroles d'un chant de louange, mais de le vivre tous les jours. J'ai été justifié. La doctrine de la justification, ça nous dépasse. Il faut le regarder avec le rempli du Saint-Esprit. Et là, on va avoir toute la signification et on va voir combien nous avons de la valeur auprès du Seigneur. Le défi, donc, est de s'engager à faire ce qui est moralement juste, équitable, en toutes circonstances, même quand cela n'est pas populaire. C'est-à-dire quand certains vont dans un sens, et ça c'est l'esprit du monde, moi je veux être, je veux rester, je veux pratiquer la justice. Il y a ce verset de 1 Jean chapitre 3, verset 7. Petits enfants, si c'est voilà, hein, un propos d'affection. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice... Il est juste. Ici, le message, c'est comme pour le marteler. Celui qui pratique la justice, alors, il est juste. Comment ? Comme lui-même est juste. Vous voyez ici l'équivalence ? C'est extraordinaire et merveilleux. Et nous sommes au bénéfice de cette justice. Amen. Notre justice, ce matin, est en Christ. Notre justice est en Christ. Et cette justice, elle vient sur nous, vous savez comment ? Comme un vêtement, nous sommes revêtus de la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous sommes revêtus de sa justice. Et notre responsabilité, c'est de garder toujours dans nos vies son vêtement de justice. Et ne surtout pas enlever ce vêtement. Parce que sinon, quand on va enlever ce vêtement de la justice, on va être confronté à notre vie de péché. Chasser le naturel, il revient au galop. Vous connaissez l'expression. Et souvent, ça, on a pu l'expérimenter chez certains qui ont fait même des choses extraordinaires, avaient reçu un appel merveilleux de la part du Seigneur. Et puis, quelques temps après, alors les raisons, pour la plupart, on ne les connaît pas, mais il y a une faille qui est là. Une faille dans la cuirasse. Et c'est là où l'ennemi va attaquer. Et donc, par conséquence, la faille que nous connaissons tous, nous la connaissons, hein, personnellement, c'est là où je dois veiller. Je dois veiller là où il peut y avoir une faiblesse dans ma vie. Et quand il y a cette faille, on doit être radical. Ce n'est pas le temps de remettre à plus tard, on verra, certains laxismes, mais on doit être radical. Demander au Seigneur, être vigilant et veiller à cela. Amen. Quand on est revêtu de la justice avec ce vêtement, alors on n'a aucune difficulté à comprendre ce que Paul, l'apôtre Paul a voulu dire dans ce verset tellement populaire de Galates, chapitre 2, verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ. » Dites-moi ces paroles, il faut les dire. Hein. « J'ai été crucifié avec Christ. » Donc il s'engage. Et il dit, ben, « Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Est-ce qu'on peut juste le répéter ? « Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Certains étaient timides, n'ont pas voulu s'engager, aller plus loin, mais c'est la réalité. C'est ça la justice, c'est ça pratiquer la justice. Une seconde clé pour notre bonheur, pour notre succès spirituel, c'est aimer la miséricorde. Le mot « miséricorde » dans la langue hébraïque, c'est le mot « chesed » qui évoque un engagement loyal issu de l'amour, la miséricorde. Et il y a une définition de la miséricorde qui est extraordinaire dans le psaume 103 et le verset 8. Il dit « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. » Amen. Donc l'Éternel, c'est sa nature. L'Éternel est miséricordieux. La miséricorde, c'est qu'il nous, il ne nous traite pas selon ce que nos péchés méritaient. C'est ça la miséricorde de Dieu. Et là, quand on le réalise, alors spontanément, on n'aura aucune difficulté à louer Dieu. Dire « Seigneur, tu es miséricordieux, tu as été miséricordieux envers moi. Merci que tu ne m'aies pas traité selon ce que mes péchés méritaient. » À Dieu seul soit toute la gloire. Aimer la miséricorde implique une loyauté et une fidélité commune à l'amour de Dieu, liée à l'amour de Dieu, qui se manifeste par un engagement à aimer les autres. Soyez miséricordieux. Ne traitez pas les autres selon ce qu'ils méritent. C'est accorder également la miséricorde. Aimer les autres. Dites-moi, ce n'est pas un défi, ça ? Alors, aimer celui que je côtoie, avec qui j'ai des affinités, ça va aller, hein, quoique des fois. Mais aimer celui qui pense différemment de moi. Aimer et aimer encore. Et vous savez que ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est tellement fondamental. Souvent, on veut faire des campagnes d'évangélisation et il faut les faire. Et évidemment, hein, vous savez à quel point cela m'est cher. Mais regardez ce que nous dit le passage de Jean, chapitre 11. À quoi vont-ils reconnaître que Dieu est au milieu de nous ? À l'amour que nous avons les uns pour les autres. L'amour, je le répète, hein, un jour peut-être on va l'écrire quelque part pour que ce soit bien... L'amour, ce n'est pas un sentiment. L'amour, c'est une action. Romains chapitre 5, Dieu prouve son amour. Donc il faut prouver que l'amour de Christ est dans nos cœurs. Amen. Donne quelques manières d'exercer la miséricorde envers notre prochain. Mais le premier par l'action, je suis en train de le dire, hein. Prouver. Par l'action, pas simplement en théorie. dans l'épître de Jacques, s'il voit quelqu'un dans le besoin, souvent c'est arrivé. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma sœur, tu es dans la difficulté, que Dieu te bénisse. Ce n'est pas le cœur de Dieu. C'est aimer en action. La deuxième, c'est par la parole, c'est pouvoir déclarer certaines choses. Et la troisième, par la prière. Et c'est là où on va aimer sa miséricorde. Alléluia. Quand le verbe aimer, il y a cette affection, cet amour qui découle, parce qu'on l'a expérimenté. Alors c'est clair qu'on ne pourra pas accorder la miséricorde si nous-mêmes nous ne l'avons pas expérimenté. Il faut impérativement mettre les choses dans l'ordre. Alléluia. Et puis, troisième clé pour avoir une marche sûre et certaine et une vie agréable à Dieu, c'est de marcher humblement. À l'humilité, ce n'est pas notre qualité première. Vous avez remarqué ? Parce que l'ego est là. Et le combat, c'est là où il se passe. Marcher humblement, c'est 2 Corinthiens. Ce passage, il est quand même assez mystérieux, connaissant le ministère de l'apôtre Paul, mais ô combien significatif pour nous. Et il m'a dit, en fait, il a fait une prière, Seigneur, et il avait un souci physique, Paul, et il a demandé à Dieu plusieurs fois, Seigneur, délivre-moi, guéris-moi, alors que lui-même, le Seigneur, se servait de lui pour guérir d'autres personnes. Et donc, et il y a la réponse, et il me dit, ma grâce te suffit, elle est suffisante, la grâce de Dieu est suffisante, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et puis il va aller plus loin, hein, il va dire, mais quand je suis faible, c'est là que je suis fort, quand je suis vulnérable. En fait, je dépends du Seigneur. C'est ça, hein, c'est ce que veut dire le texte. Dans marcher humblement, cette marche, on voit que les mots et les verbes, ils ne sont pas mis là, employés comme au hasard. Marcher, c'est, on est en action, on est en mouvement, et on part d'un point A pour un point B, marcher humblement. Ça ne veut pas dire non plus marcher la tête baissée, parce que moi je vois dans la parole de Dieu que nous ne sommes pas n'importe qui, hein, on le répète assez régulièrement, nous sommes voilà, une race élue, une nation sainte, nous sommes des enfants du Seigneur, il y a quand même cette fierté d'appartenir à notre Seigneur, pas... On ne compte pas sur nos propres forces, mais marcher humblement, c'est marcher avec prudence devant Dieu. C'est être prudent. D'ailleurs, le Seigneur Jésus va dire, soyez prudents. Cette prudence, marcher devant Dieu, en étant attentif à la manière dont chacun d'entre nous vivons notre marche. Alléluia. Parce que nous sommes les représentants du Seigneur ici-bas. On a une responsabilité qui est énorme. Celui qui marche humblement, avec le Seigneur, le fait avec modestie et surtout sans arrogance. Qu'il n'y ait pas de l'arrogance dans notre cœur. Tout centré sur l'ego, ce que ça peut me rapporter. Mais qu'en fait, souvent, on est conditionné comme ça, hein, ne serait-ce que pour apporter la louange au Seigneur. Si je me lève du bon pied, ce matin, je vais louer le Seigneur. Et puis si je me lève... de notre pied, c'est dit, voilà, aujourd'hui, c'est compliqué. Est-ce que quand même si on ne se lève pas du bon pied, le Seigneur n'est pas digne de louange ? Il n'est pas digne d'adoration ? Et que le Seigneur puisse marquer dans nos cœurs, vraiment, profondément, de marcher humblement. Alléluia. Alors, ce n'est pas de la faiblesse, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Marcher humblement, c'est une force. Être dans l'humilité et accepter de dépendre de notre Seigneur. Dans ces trois conditions que nous avons vues, donc nous avons vu que pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement. Il y a un personnage dans la Bible qui en fait regroupe ces trois secrets. Ce personnage, c'est Jonathan. Alors blanc, je le sais. c'est Jonathan. Et donc, et en général, quand on pense à Jonathan, de suite, on va l'associer à David. David, Jonathan. Et on voit que cet homme, donc, c'est un exemple marquant, donc ce Jonathan. Et on voit tout d'abord, regardez, 1 Samuel 18, verset 3. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. les propos, ils sont forts, non? Il l'aimait comme son âme. Alors, certains ont mal interprété ce verset. Je ne sais pas si vous connaissez dans ce mouvement de David et Jonathan. C'est en fait pour excuser de vivre une foi chrétienne et en restant dans l'homosexualité. Ah, c'est ça. Et en fait, ils interprètent, il l'aimait comme son âme. Vous voyez bien qu'il s'est passé quelque chose. Voilà l'interprétation. Alors, il y a évidemment qu'il y a d'autres versets qui prouvent le contraire, et ce n'est pas le sens de ce passage. Donc, dans un premier temps, on voit que ici, donc, il a pratiqué la justice. Il a voulu faire alliance avec David. Donc, la pratique de la justice, pourquoi? Lui-même, il s'est dépouillé. Des fois, on aurait tendance à oublier que ce Jonathan-là, normalement, c'était lui qui était le successeur de son père qui était roi. Et donc, il se dépouille. Donc, on voit quand même cette humilité, hein, c'est le point suivant, cette humilité dans son cœur. D'abord, il fait une alliance. Et ça, c'est extraordinaire pour nous tous ce matin, de savoir que Dieu, le grand Dieu de l'univers qui tient le monde entier dans sa main, tout à l'heure, on a chanté, hein, il a créé les astres, les océans, les mers. Ce Dieu, il a fait une alliance avec nous. Et je vais le dire comme ça. Ce Dieu a fait une alliance avec toi. Ça, c'est merveilleux. Alléluia, cette alliance, cet accord avec chacun d'entre nous. Que Dieu soit béni. Le second verset, c'est 1 Samuel 19, 1 et 2. Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'a informé et lui dit, « Saül, mon père cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes. Demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. » Ici, il accorde finalement la miséricorde. Il vient avertir David qu'il va y avoir un danger, hein, que Saül il poursuit un but, c'est de le tuer. C'est cette image de l'ennemi qui est là, qui lui poursuit un but pour chaque croyant engagé. C'est de nous tuer, de nous égorger, de voler tout ce que le Seigneur nous donne. Et puis on voit au travers du dernier exemple, 1 Samuel 20, 42, et Jonathan dit à David, « Va en paix, maintenant que nous avons juré l'un et l'autre au nom de l'Éternel en disant que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. » Alléluia. Ici, on voit le summum de l'amitié. Et ça se rapporte évidemment à notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur, il va le dire comme cela. Il va dire, mais vous savez, maintenant, je ne vous appelle plus serviteur. Maintenant, vous êtes mes amis. Mais pas un ami virtuel qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Un ami réel, concret, qu'on peut déranger à n'importe quelle heure. Quand on est confronté à un besoin, il est l'ami fidèle. Alléluia. L'amitié, ça se construit. On en parlait ce matin, hein, sur les affinités. Ça ne s'explique pas. Il y a des personnes, j'espère que vous l'avez expérimenté aussi, il y a des personnes, on ne les connaît pas particulièrement, et puis quand on discute avec eux, il semblerait que ça connecte assez vite, en fait, et on a l'impression de se connaître depuis pas mal de temps. Et ça se fait naturellement. Alors ça ne s'explique pas, c'est un mystère, et on n'a rien contre ça, évidemment. Mais dans l'Église, nous devons cultiver plus que jamais cette amitié. Savoir qui est mon frère. Le dimanche 3, quand j'ai demandé à certains comment, 3 août, comment s'était passé le culte, on m'a dit, il y a quelqu'un avec une barbe blanche qui a joué du piano. Et là, ça m'a interpellé en fait. Je me suis dit, la personne avec une barbe blanche qui a joué du piano, c'est un frère ancien de l'Église, hein, qui est là depuis quelque temps. Et en fait, ça m'a ouvert les yeux de dire, finalement, on ne sait pas qui est qui. Je trouve que c'est dramatique. Et dans ce monde aussi impersonnel dans lequel nous vivons, Souvent, on n'a aucune difficulté, et j'ai rien contre ça dans une certaine mesure. On s'invite les uns et les autres, par affinité, le groupe de jeunes. Est-ce qu'on a pensé des fois à s'inviter avec des personnes qui, forcément, on ne se connaît pas trop, pour apprendre à se connaître? Et des fois, quand on parle d'invitation, hein, pas faire un grand repas, boire un café, partager un goûter, hein. Alors je donne quelques idées comme ça, afin de se côtoyer, pour que l'amitié puisse être cultivée. Et c'est ce qu'on va faire ici, Jonathan. En fait, l'amitié, il va avoir du courage, le courage également, et puis la fidélité. Aujourd'hui, il y a un verset dans le livre de Psaume, il dit, mais les hommes droits et fidèles ne sont plus là. On les cherche, et il n'y en a pas. Que nous puissions être connus pour être quelqu'un de fidèle. Fidèle à tous les niveaux. Et c'est ce que représente finalement Jonathan. Amen. Qui a exercé donc l'amitié, le courage, la fidélité à toute épreuve. Donc pour David. Alors pourquoi le Seigneur, hein, on revient à notre passage initial, pourquoi le Seigneur exige-t-il cela de nous? Ça c'est la question qui va venir automatiquement. Ben, tout simplement, l'une des raisons principales, c'est que nous sommes, je l'ai dit tout à l'heure, les représentants, ses représentants sur terre. Nous ne sommes pas des copies, hein. Nous sommes des représentants, hein, donc des ambassadeurs de Christ. Encore une fois, un verset qui le dit dans les épîtres de Paul. Vous êtes les ambassadeurs de Christ. Ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente un pays dans un pays étranger. C'est ça. Et sûr et certain, quand deux personnes se retrouvent dans un pays étranger, assez rapidement, ils vont discuter d'un sujet, du sujet principal, ils vont discuter de leur pays. Et nous-mêmes, nous devons nous entretenir en tant qu'ambassadeurs. Donc nous sommes des représentants, donc légaux du Seigneur, des ambassadeurs, dites-moi, quand même. On a une responsabilité pour refléter la lumière de Christ. Alléluia. Amen. Jésus nous appelle à la lumière du monde. Il nous appelle à briller. Il nous appelle à être le sel de la terre. On sait que le sel a plusieurs vertus. Hein. Donc, évidemment, donner du goût, mais pas que. Préservation et bien d'autres choses. Alors, conclusion, on va conclure justement avec ces trois points. Être juste, aimer la miséricorde, marcher humblement. Quand on pense à cela, est-ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous? Ça m'a fait penser à quelque chose. Et en résumé, ce verset d'introduction de Michée, chapitre 6, verset 8, nous parle d'acquérir le caractère de Christ. Et donc il y a ce verset de Philippiens, chapitre 2, verset 5. « Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Moi, j'ai envie de dire qu'ils sont en Jésus-Christ. Les sentiments qui sont toujours en Jésus-Christ. Et pour cela, il y a besoin d'une transformation au niveau du caractère. Oh, combien de fois j'ai entendu, « Pasteur, c'est mon caractère, qu'est-ce que vous voulez faire ?» Alors la réponse, elle vient rapidement. Si c'est ton caractère, alors c'est déjà une bonne chose de le reconnaître, mais le Seigneur t'appelle à être changé et à être transformé. Comment? À son image. Alors moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, de mon côté, il y a du travail. Hein. Mais le Seigneur, il s'en occupe. Il nous aide par son Saint-Esprit. Là, encore une fois, je vous l'ai dit hein, plusieurs fois, le Saint-Esprit, ce n'est pas simplement nous faire trembler, ressentir dans une réunion particulière la présence de Dieu, et il le fait. Mais le Saint-Esprit, il va nous conduire dans la vérité. Il va nous aider à être semblable à Christ. Acquérir le caractère de Christ, le caractère, c'est ce qui définit une personne et la différencie d'une autre. Une personne qui a un bon caractère est agréable à côtoyer. Vous l'avez remarqué? Le contraire aussi. Personne qui a un mauvais caractère, ça attire pas hein, du premier coup. Hein. Au contraire, hein, on y va des fois avec la pointe des pieds. Hein. On ne sait pas comment l'apprendre parce que des fois, il y a de la susceptibilité. Ça aussi, c'est terrible. Hein. Susceptible. Des fois, ça prend des proportions énormes alors qu'à la base, il n'y a rien du tout. Et en fait, ici, le combat, c'est l'homme nouveau versus le vieil homme. Il faut que tout ce qui se rapporte au vieil homme pour acquérir le caractère de Christ soit dans nos cœurs. Les derniers versets de la matinée, Éphésiens chapitre 4, versets 22 et 24. « Eu égard à votre passé, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. » Verset 23, « à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. » Alléluia, c'est ça le caractère de Christ. Je ne sais pas si c'est votre prière, « Seigneur, rends-moi semblable à toi, enlève ce qui n'est pas à ta gloire, pour que les gens que je vais côtoyer puissent se poser des questions. » Mais quand même, il y a quelque chose que je n'ai pas. C'est ça donner du goût hein, aux gens que l'on côtoie. Alors, la Bible nous donne Jésus comme modèle. Et durant l'année, alors on a pris du temps, je vous l'ai dit, voilà, pour déjà personnellement, et ensuite en tant que responsable d'église, vous allez me l'entendre répéter plusieurs fois hein, dans l'année, c'est soyons des modèles. C'est être des modèles. Voilà l'exigence du Seigneur pour chacun d'entre nous. Alors nous voulons pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement dans les voies du Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci pour ta grâce et merci pour ton amour. Seigneur, nous l'avons lu, Seigneur, et tu as voulu nous le révéler. Tu as des exigences. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à les accomplir. Ces trois points que nous avons vus, Seigneur, mon Dieu, qu'ils soient ancrés dans notre cœur et que ce soit comme une motivation à poursuivre ces choses. Seigneur, s'il te plaît, aide-nous en tant qu'Église. Mais aide également mes frères et sœurs, Seigneur, à aller dans cette direction pour faire ce qui est bien, Seigneur, mon Dieu, ce qui te plaît, ce qui t'est agréable. Pour cela, il y a besoin d'une métamorphose, d'un changement, Seigneur, d'une transformation réelle et concrète du caractère. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à ne pas justifier toute chose. Aide-nous, Seigneur, à ne pas t'apporter toutes sortes d'excuses et de nous présenter devant toi comme ce sacrifice vivant en disant, Seigneur, rends-moi semblable à toi. Enlève, extirpe, arrache ce qui n'est pas à ta gloire, afin que le monde voit, que les gens que je côtoie voient que tu vis en moi, que ma vie ait un impact pour le royaume de Dieu. En toute humilité, nous voulons le faire, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu poursuis ce but dans notre cœur et nous voulons te glorifier. À toi la gloire et l'honneur. Merci, notre Dieu. Amen et amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse.